A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
C'est l'histoire d'une tête chercheuse, historienne, docteur en histoire de l'Université Paris 7, spécialiste de l'histoire de l'Afrique du Sud, militante battante adjointe au maire de Sarcelles en banlieue. C'est l'histoire d'une colère, celle de Chantal Aounou, qui normalement n'a pas de place dans aucune case. Trop ou pas assez princesse béninoise, trop ou pas assez actrice d'elle-même, trop secrète alors que très connaisseuse de l'histoire coloniale, mais jamais trop en lutte sur la question des discriminations et du racisme en France ou en Afrique du Sud. Bref, terriblement Chantal Aounou. Bonjour madame.
Bonjour.
J'ai un peu peur de vous poser des questions et de ne pas avoir de réponse, pour tout vous dire.
Vous avez raison.
Ça ne me rassure pas du tout.
J'ai l'art d'éluder quand il le faut.
Alors, il y a tellement de trajets et de combats dans votre histoire. La France, le Bénin, le Brésil, l'Afrique du Sud, nos banlieues. On va d'abord commencer en douceur avec le maître du silence, en musique. Pourquoi Miles Davis et So What ?
Parce que j'ai toujours été une petite fille qui posait des questions, beaucoup de questions, auprès des adultes.
Mais Miles Davis, c'est un poseur de questions pour vous ?
Oui, aussi j'adore son histoire et ça correspond aussi à une tradition familiale au départ qui était d'écouter du jazz tous les dimanches. Et j'adorais ça.
Ce qui est incroyable, c'est ce que je me dis en écoutant So What de Miles Davis sur RFI, c'est que cette musique si élaborée soit devenue si populaire. Chantal Aounou.
Pour moi, elle est populaire, mais en même temps, pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Moi, je l'écoutais régulièrement quand je me promenais dans les rues de Harlem, j'adorais. Et puis, en même temps, résonne en moi la contrebasse, parce que j'adore cet instrument. Qui me correspond en même temps qu'on pourrait dire que non, à cause de ma voix. Et là, j'ai suivi une petite vexation parce que petite, je voulais jouer justement de la contrebasse parce que j'adorais le jazz et que mes parents trouvaient ça un peu étrange, surtout mon père, et qui m'a dit une contrebasse, enfin bon, et il m'a acheté une guitare. Une petite frustration.
La trompette de Miles Davis appréciera. Notre invité en sol majeur est
exactement.
Né en 1959, donc à Poitiers en France. La même année, Miles Davis écrivait « So What ?» C'est une coïncidence qui fait que le cool, le jazz cool, naît en même temps que les indépendances africaines. Le hasard, vous y croyez, vous ?
Ah, je commence à y croire, oui. Parce que les gens que j'ai rencontrés et que je rencontre encore m'aident à retisser ma propre histoire. Et j'ai pas voulu me confronter pendant très longtemps à ma propre histoire. Et maintenant, c'est une nécessité vitale, existentielle.
Alors, dans votre toute petite enfance, il y a une figure du panafricanisme qui est passée comme ça dans le salon familial. C'est l'artisan de l'indépendance du Ghana, anciennement colonie britannique sous le nom de Côte de l'Or. Je parle de Monsieur Kwame Nkrumah.
This decade,
cette décennie
is the decade of African independence.
Est la décennie de l'indépendance de l'Afrique.
Forward then.
Et au-delà de l'indépendance, de l'indépendance maintenant, ce sera demain celle des États-Unis d'Afrique.
Quand vous disiez que vous étiez tcha-tcha tout à l'heure, je me disais dans ma tête, elle est indépendance tcha-tcha Chantal Aounou. Alors pour en sol majeur, la petite robe blanche que vous portiez à 2 ans, se souvient de quoi lorsqu'on prononce le nom de Kwame Nkrumah ?
Elle se souvient de son grand-père. Son grand-père qui laisse un témoignage fort et qui dit « Vous appartenez à la famille royale Takitawa Ier. J'en ai la preuve et d'ailleurs je le certifie par un document. Takitawa Ier du Ghana, bien sûr. » Et que deuxième miracle, mon grand-père a été ambassadeur du Ghana.
Et donc il rencontre forcément...
Kwame Nkrumah, puisque ça se passe dans les années 60. Et ça paraît un peu extraordinaire, hein, j'en parlais même à des professeurs d'université qui me regardaient de façon étrange. Et je leur ai dit, mais enfin j'ai les photos. Où on voit en effet mon grand-père... qui est salué par Kwame Nkrumah.
Donc famille politique, famille engagée.
Famille politique, famille engagée, oui.
Point. Pourquoi point ? Parce que là, normalement, c'est tout un champ de réflexion qui s'ouvre quand vous dites une chose aussi importante. On est dans les années 60, ça veut dire que la génération de votre grand-père et sans doute de votre père a relevé les manches pour justement toutes ces luttes indépendantistes. Est-ce qu'on ne parlait pas volontairement dans la famille ? Ça faisait partie de la culture familiale de chut, surtout ne pas en parler ?
C'est compliqué la politique, il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on tait. C'est normal.
Même 60 ans après, il n'y a pas prescription ? On ne peut pas commencer à ouvrir, à libérer la parole ?
La parole, je la libère pour moi, par les actions que je mène. Mais je ne m'autorise pas à parler au nom de ma famille. D'autant plus que, vous savez très bien que la politique, ça peut être parfois compliqué.
Vous parlez comme les politiques, en fait.
Exactement, hein. Un peu. Je reconnais. Je reconnais.
Vous ne pouvez pas parler, vous ne vous autorisez pas à parler au nom de la famille, mais vous pouvez parler au nom de la petite robe blanche que vous portiez, toute petite.
D'ailleurs, ce n'était pas une robe blanche, c'était une robe, une belle petite robe de marin. Je me souviens, j'avais une petite queue de cheval, c'était drôle, avec une jolie barrette avec un nœud vert. Oh, quand même, j'étais assez mignonne, hein, petite.
Vous étiez habillée comme une petite blanche, si oui. J'ose dire.
Oui, donc avec une éducation tout à fait occidentale, ce qui peut en même temps poser problème pour moi. Parce que certains Africains me disent, même aujourd'hui, oh bon, finalement, toi, tu l'as de noir que la peau. Mais sinon, à l'intérieur, tu es blanche. Pendant un moment, ça m'a un peu mise en colère. Et puis maintenant, je dis, c'est pas très grave. Moi, je me sens avec des fondations profondément africaines aussi. Donc, je n'ai rien à prouver.
Vous vous souvenez, cela dit, d'une certaine atmosphère petite ? Dans cette Afrique où vous grandissez, parce que vous êtes née à Poitiers, en France, mais vous, la toute petite enfance, vous la passez sur le continent. Donc vous vous souvenez de quoi ?
Alors, je me souviens de très beaux paysages, de beaucoup d'amour, du confort, énormément de confort, un peu de l'opulence, de la richesse que j'ai pu voir, oui.
Et de tension aussi, une certaine
aucune tension.
La politique ne fait
juste,
pas...
Juste... Oui, j'ai vu à certains moments, en effet, peut-être, je dis, hein, un début d'attentat, la voiture de mon grand-père calcinée, mais j'en suis pas très sûre. Je vais pas chercher trop de ce côté-là.
Faites pas d'enquête.
Pour le moment, je fais pas d'enquête. Enfin, si, j'en fais une. Mais comme je ne suis pas sûre, quand on est historien, il faut qu'on ait des faits avérés. Tant que je suis pas sûre, je ne certifie rien.
Pour vous, le pays d'origine est synonyme de quel mot ?
C'est compliqué pour moi, hein, pays d'origine. Moi, je revendique une pluralité d'origine maintenant. Alors, évidemment, on peut dire le Bénin, c'est certain. Le Ghana, oui aussi.
Car vous y avez grandi petite, hein ?
Oui, mais pas seulement. Le Togo, par lignage aussi, à cause de ma grand-mère, je crois. Et oui, et le Brésil aussi. C'est très compliqué dans ma tête, tout ça.
Alors, si on zoome sur le Bénin, simplement, il est synonyme de quoi pour vous ?
De joie, de douleur.
Pourquoi douleur ?
D'abord parce que c'est un arrachement de quitter son pays. Et parce que j'ai perdu ma mère. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Elle est retournée, elle, sur sa terre natale. J'ai pas pu tout lui dire. Oui, je regrette qu'elle ne soit plus là. Donc c'est une douleur, en effet.
Sa présence va nous accompagner, on y reviendra, sur votre mère, Chantal Aounou. Mais que vous a transmis cette famille béninoise lorsque vous y étiez ? Quelles valeurs ?
Des valeurs, beaucoup. Le respect... Et franchement, c'est curieux, mais les valeurs de la République, j'ai vraiment une culture occidentale, l'amour de la France. Donc j'avais une imprégnation déjà toute petite de ce que pouvait être et de ce qu'était de toute façon l'éducation française hein, que j'ai toujours eue. Et puis je me rappelle avoir été très très vexée parce que à un moment donné, je me suis plainte à mon grand-père... de mes parents et je lui ai écrit une longue lettre qu'il m'a renvoyée en me disant écoute, ma fille je comprends tes récriminations mais enfin, dans ta lettre il y a beaucoup trop de fautes d'orthographe donc tu voudras bien me les corriger donc je te la renvoie avec 10 petits grévistes.
Donc vous êtes bonne en orthographe?
Pas forcément.
Pas forcément d'ailleurs.
Non. Et donc je avec mes élèves je suis un peu pareil quoi.
Comment vous voyez ça avec la distance, le fait que cette famille vous ait un peu assigné le fait de devenir vous-même des Français, alors que vous êtes du Bénin, avec des valeurs africaines aussi dans le couffin?
On est dans les années 60, je pense que c'est comme ça, hein, mais mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient Français depuis un certain temps, issus de familles bourgeoises, et l'idée c'était que... Forcément, on était français.
Et en même temps indépendantiste.
Je peux pas dire indépendantiste. Bien sûr qu'il y a une volonté d'indépendance. Mm-hmm. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti chez mes grands-parents, vraiment. Chez mon grand-père, je crois qu'il y avait aussi une quête de ses origines, de retrouver la famille dont il était issu, des testaments, je veux dire, qu'il nous a laissés, qu'il nous a légués. Oui, et qu'il y avait une quête d'avoir une Afrique unie, certainement. Mais j'ai jamais parlé avec lui de ces questions. Je suis très poreuse, je ne pose pas de questions.
C'est drôle pour une historienne, non ?
C'est mieux d'observer et d'écouter que de poser des questions parfois. Mmh. Ça peut sauver la vie.
Alors, il y a les valeurs de la République, comme vous dites, d'un côté, dans cette enfance, Chantal Aounou, et puis de l'autre, il y a cette lignée royale dont vous nous parliez un tout petit peu rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce que vous savez sur cette lignée ?
Écoutez, il n'y a pas si longtemps hein, que j'ai accepté de m'y intéresser vraiment. Bon, vous savez qu'on est en France, dans un pays où on a coupé la tête à Louis XVI, et donc c'est un peu compliqué de dire peut-être je suis une princesse, quoi. Ça fait rire. Oui. Une princesse un peu noire, ça fait rire au début.
On en reçoit beaucoup des princesses noires, vous savez, nous ici.
Vous en recevez beaucoup, mais dans la vie de tous les jours ?
J'en croise, oui, j'en croise, bien sûr.
Qui le disent ouvertement,
qui l'assument, qui en sont fiers, même.
Ah, mais moi, j'en ressens une certaine fierté, mais... Et moi, je ne suis pas monarchiste.
Voilà, sans être monarchiste, pour
voilà.
autant. Hein.
Je ne suis pas monarchiste.
C'est juste l'histoire. C'est juste une histoire familiale, une appartenance.
Oui, mais au jour d'aujourd'hui, j'avoue que ça me plaît beaucoup.
Alors donc, il y a eu un chemin quand même. Vous êtes réconciliée avec ça?
Oui, je me suis réconciliée avec ça. Puis il y a l'âge, hein. J'ai 59 ans. Il est temps d'ouvrir tous les tiroirs.
Alors, vous avez des origines royales qui viennent du Bénin, je suppose, mais pas seulement. Vous avez aussi des origines brésiliennes?
Oui, par Francisco de Souza. Il vient du Brésil. Ce fut un négrier.
Oui,
il a vécu
à
Ouida.
Oui, oui. Vous dites ça avec un air contraint.
Bah oui, contraint, parce que d'où vous voyez cette proximité avec les afrodescendants, et aussi le fait que mon grand-père se soit violemment opposé à l'esclavage.
Mais du coup, ce que je comprends, c'est que avoir été élevé comme ça, dans ce désir d'être français, on était dans les années 60, mm-hmm. effectivement, c'était d'époque, ça va aussi parallèlement avec le fait d'avoir une difficulté à accepter ce qui constitue en partie l'identité africaine. Il y a l'histoire de l'esclavage, il y a l'histoire de rites et de traditions. Il y a eu un hiatus entre ces deux identités, parce que vous êtes aussi française de toute façon.
Non, mais en même temps que je vous dis ça, j'adore me promener dans les musées et retrouver ce qui fait mon histoire culturelle. J'adore par exemple les bronzes du Bénin. Mais je suis profondément, esthétiquement, intérieurement africaine. Ça ne se voit pas, je sais.
On vous suit, Chantal Aounou, sur cette enfance qui commence par se dérouler en Afrique. Et puis en 1966, vous revenez en France. Et la France de 1966, c'est un peu ça.
Ce qu'il faut considérer d'abord dans cette affaire...
Le général de Gaulle à propos de l'affaire Ben Barka.
C'est que rien, absolument rien, n'indique que le contre-espionnage et la police en tant que telle, dans leur ensemble, aient connu l'opération et à plus forte raison qu'il l'ait couverte. Au contraire, et il faut bien convenir que les affabulations des uns et des autres...
Monsieur le commissaire.
Je suis pas commissaire. Je suis major.
Moi, monsieur le major, je vais gagner du temps. On ne va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire.
La grande vadrouille.
Peter.
Alors j'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal. Ça s'appelle Maréchal.
Il y a une petite erreur, Major Harbard. C'était pas un lundi.
Quand?
C'était un dimanche.
Oui, c'est vrai, oui.
Et le dénommé Henri, il ne s'appelait pas encore Maréchal.
Non, mais moi je suis né en 14, moi.
Oui, c'était la Grande Guerre.
Bah oui, c'était la Grande Guerre.
Les essais nucléaires français dans le Pacifique.
5, 4, 1.
L'atoll de Mururoa constitue un des sites de tir atomique. On l'a doté de 3 immenses blockhaus d'observation, dont le plus grand, Denise, représente une masse de béton de 60 000 tonnes.
Liberté.
Tous ces préparatifs destinés à permettre la première des expériences atomiques du Pacifique.
Égalité.
N'ont pas apparemment troublé la vie des Tahitiens.
Fraternité.
Alors Chantal Aounou, vous revenez donc dans cette France de 1966 qui ressemble rapidement un petit peu à ça, à côté éphéméride, avec sur le fronton de nos mairies cette fameuse devise « Liberté, égalité, fraternité ». Alors après l'Afrique bourgeoise, l'Afrique princière que vous nous décriviez rapidement, comment se passe votre retour en France? Vous avez 7 ans.
Ah, je vais vous dire quelque chose. Il paraît que c'est ma mère qui me racontait. Elle en était très fière que le général de Gaulle m'a tenue dans ses bras. Et donc, elle adorait le général de Gaulle à cause de ça. Mais c'est un peu la douche froide quand on vient en France quand même. Hein. Les difficultés commencent, on réalise quand même qu'on n'a peut-être pas la bonne couleur de peau. Ça devient compliqué.
Donc la France, vous diriez que c'était comme une seconde maman ou que c'était plutôt comme une marâtre?
Les deux, les deux.
Vous vouliez faire quoi comme métier, petite?
Hôtesse de l'air au départ. J'ai voulu être ethnologue.
Et comédienne, c'est venu quand?
Ah, comédienne. Comédienne, c'est venu parce que, voyez, j'avais refoulé. J'ai un amour incroyable de la littérature. Je me souviens avoir croisé Ionesco, Bulogier, Maxime Le Forestier, enfin des gens des gens fous.
Oui, mais parce que vous étiez dans une école, dans un collège expérimental,
c'est ça.
Hein, c'est-à-dire
un collège où nous avions cours le matin et tout l'après-midi était dédié à des activités extrascolaires. Donc tous ceux qui se sont imprégnés de cette atmosphère à l'époque sont un peu décalés comme moi.
Et alors, vous avez ce désir d'être comédienne, mais c'est un désir qui va être contrarié
Bah, il est contrarié parce que, à l'époque, c'est curieux de vouloir être comédienne dans un monde où les comédiens noirs sont rares. Hein. C'est difficile.
Alors, vous avez peut-être eu aussi le dernier mot sur cette colère première, sans doute, notamment en rencontrant un homme de culture, un certain Olivier Py, comédien et auteur, qui mêle souvent mysticisme chrétien et folie dionysiaque dans ses œuvres, auteur qui donne la parole à ses 17 ans dans Le Cahier Noir.
À 17 ans, on a un peu tendance à se prendre pour un génie, et à se prendre pour Rimbaud, évidemment, entre autres génies. Donc ça, on le voit dans le texte. L'adolescent, il est insupportable. Celui que j'étais n'était pas moins insupportable que d'autres. Mais en même temps, il a raison. C'est lui qui a raison quand il supporte pas la médiocrité du monde qui l'entoure. C'est lui qui a raison quand il proclame qu'il veut l'absolu. C'est lui qui a raison quand il dit qu'il est prêt à tous les sacrifices pour qu'il y ait un peu de vérité qui apparaisse en ce monde. Il est insupportable quand il dit ça, et pourtant, c'est lui qui a raison. L'art servira toujours d'asile à ceux qui veulent vivre une aventure spirituelle et qui ne la trouvent plus dans les religions ou pas dans les religions. Je ne suis pas certain que le théâtre soit là seulement pour parler de sujets de société, même s'il peut le faire et qu'il peut le faire bien. Mais je crois que le théâtre a une autre vocation. Il doit nous rappeler qu'on est des citoyens, mais il doit d'abord nous rappeler qu'on est des mortels. Pour ceux qui n'ont pas d'église, il y a ce lieu-là.
Olivier Py, actuel directeur du Festival d'Avignon, qui passe une tête dans votre ensemble majeur sur RFI, Chantal Aounou. Pourquoi vous désiriez rencontrer Olivier Py? Je m'adresse à l'enseignante du collège de Sarcelles. Hein.
Ce que j'ai voulu à l'époque, j'ai eu des élèves qui étaient en souffrance, qui ne maîtrisaient pas la langue française et qui étaient enfermés. Parce que quand on n'a pas les mots, on utilise la violence. Et donc cette rencontre entre mon désir d'être comédienne, ma soif de littérature, l'envie d'émanciper des générations d'enfants, a fait que je me suis dit, après tout moi j'aime le théâtre, et donc j'ai recommencé je crois à aller au théâtre de l'Odéon, et puis... Cheminant un soir, très tard, je ne sais plus, je sais que je l'ai interpellé, je lui ai dit « Monsieur, accepteriez-vous de recevoir mes élèves au théâtre de l'Odéon ?» Vous voyez, j'en bégaye un peu d'émotion. Il m'a regardé, m'a dit « Mais oui, bien sûr !» Donc après, pendant 5 ans, l'Odéon a été ma maison. Les portes grandes ouvertes, et j'ai eu des élèves qui sont devenus brillamment excellent.
Donc, le théâtre, tel qu'il le conçoit, a pu sauver certains de vos élèves qui sont perdus aussi dans des questions d'identité.
Oui, et les transcender.
Je parle de ces élèves de nos quartiers, de Sarcelles en tout cas, ceux que vous avez croisés.
On ne s'est pas posé la question d'identité. Hein. Je leur ai dit, vous êtes français, bon, vous êtes noir aussi, on s'en fiche.
Non, mais c'est eux qui se la posent.
Oui, mais avec moi, on ne chemine pas comme ça.
Je me doute.
On va doucement. On fait comme mon grand-père faisait, t'apprends à lire correctement, t'écris correctement, et ensuite on se pose les questions. Tant que tu peux pas les formuler correctement, je n'écoute pas. Donc, l'idée géniale, c'est que j'ai réussi à faire qu'ils aient 10 heures de français par semaine, mais j'ai été aidée hein, par une municipalité géniale aussi. Ils sont allés au théâtre très régulièrement, vous imaginez. Un spectacle à l'Odéon une fois par mois. J'en ai 60 élèves en bus au théâtre de l'Odéon. Ce fut une époque absolument géniale.
Alors lui, s'est construit entre délinquance, rap et islam. C'est Abdelmalik. Et quand il slame sur du Bizet, je me demandais si vous trouviez, vous, Chantal Aounou, s'il y avait quelque chose de subversif.
Non, je trouve ça tout simplement génial qu'ils disent les choses.
On va l'écouter en sol majeur dans Le Nouveau Président, extrait de son ouvrage Le Dernier Français. Il dit les choses selon vous ?
Vous savez, si on part du postulat que je suis française, on n'a pas à me demander de faire la preuve que je suis française. Soit on est français, soit on ne l'est pas. Et à ce moment-là, ça devient difficile. Moi, j'ai été dans une schizophrénie comme ça. Très longtemps. Je me souviens, hein, dans un cours d'histoire moderne, mon professeur m'interpelle et me dit « Mais d'où venez-vous, mademoiselle? Comment se fait-il que vous parliez si bien français ?» Devant 50 étudiants. Je suis restée interdite, j'ai pas pu répondre. Tellement la question me paraissait insensée. Alors je me suis dit, j'en ai marre, allez hop. Maintenant, je bifurque et je vais faire des études d'histoire africaine. Et c'est ce que j'ai fait.
On écoute Abdel Malik. Et peut-être on retourne dans votre amphi tout à l'heure, Chantal Avenou.
Je me tiens devant vous, non pas comme un noir, non pas comme un blanc, non pas comme un arabe ou comme un juif. Je me tiens debout, non pas en tant que musulman, non pas en tant que chrétien, non pas en tant que juif ou agnostique. Je me tiens ici, non pas comme un banlieusard d'une cité HLM, non pas comme un bourgeois ou un quelconque riche héritier. Et parce que ce n'est pas un jeu, je ne vous parlerai pas avec la ferveur d'un supporter du PSG, de l'OM ou de l'Olympique Lyonnais. Mais je m'adresserai à vous comme un citoyen français, comme un citoyen épris de liberté, comme un citoyen qui lutte pour une réelle égalité. Si le mot fraternité paraît aujourd'hui désuet ou sans portée réelle pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons oublié, évacué de notre mémoire que la France n'est pas un pays, non. Elle n'est pas une chaîne de montagnes, elle n'est pas un climat ou un ensemble de fleuves. En fait, la France n'est même pas un peuple ou une nation. Et si elle est toujours tout cela à la fois, c'est avant tout parce qu'elle est une mère, une maman. Et le premier mal découle du fait que nous l'ayons rendu amnésique à sa propre fonction. Aussi, l'État qui répond d'elle est-il en charge à la fois de son héritage d'hier, de ses intérêts d'aujourd'hui et de ses espoirs de demain, a dit le vieux général.
Un Abdel Malik auréolé d'un orchestre symphonique sur RFI pour dire tous les bleus, blancs, rouges de notre invitée, Chantal Aounou, franco-béninoise, on peut dire ça?
Ah oui, tout à fait.
Vous, votre famille, vous l'avez rencontrée, j'ai l'impression, dans les livres, les amphis ou les campus. Motus, il y en a trois dans la main d'un sol majeur.
Je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à-dire
Roland Barthes,
l'espèce de soliloque d'ailleurs extrêmement fragmenté, morcelé, désordonné, que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour, c'est-à-dire ce que la société fait de ce sentiment amoureux en lui donnant l'espèce d'harmonie, même s'il est un peu douloureuse, d'une histoire, d'un récit.
Si la culture est l'ensemble des comportements moteurs et mentaux nés de la rencontre de l'homme avec la nature et avec son semblable.
Franz Fanon.
On doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme.
There is a conspiracy in the land.
Angela Davis.
Il y a une conspiration dans notre pays.
Now what is that conspiracy?
En quoi consiste ce complot? On veut anéantir, assassiner toutes les panthères noires, ainsi que l'ensemble de la communauté noire aux États-Unis.
F comme famille d'élection.
Dans la famille intello, activiste, tiers-mondiste, je crois qu'il y a du monde hein, chez vous, Chantal Aounou. Qu'est-ce qui vous lie d'abord à Angela Davis?
Son féminisme, les Frères de Soledad.
Ah, alors rappelez-nous ce que c'est.
Oh, c'est une histoire assez douloureuse avec les frères Jackson qui faisaient partie, me semble-t-il, des Black Panthers et qui ont été pour certains tués.
Mais c'est-à-dire que la réponse à vos questions identitaires des années 80-90 se trouve pour vous plutôt outre-Atlantique, c'est-à-dire du côté notamment des Black Panthers.
Non, les choses ne se posent pas comme ça, vraiment. Je pense qu'il y a eu des combats partout. Le fait aujourd'hui que je sois là devant vous, le fait de pouvoir m'exprimer, de dire les choses, finalement, est très récent. Ce mouvement date, à vrai dire, je crois, des émeutes de 2005.
En banlieue, en France.
On a peut-être réalisé que les Noirs n'étaient pas invisibles. Et que depuis 2005, il y a une espèce d'accélération du temps. Je crois qu'elle est provoquée par nous-mêmes, aussi par les nouvelles générations. Nous sommes Français et donc on doit avoir notre pleine entière place dans la société.
En tout cas, cette colère dont on parlait tout à l'heure, qui prend naissance dans ce désir avorté de devenir un jour comédienne, Chantal Aounou, c'est une colère qui prend donc la route des études d'histoire. Hein, après avoir fait littérature, vous bifurquez, vous allez vers l'histoire. Et vous tombez sur un roman, alors je ne sais pas dans quel ordre, hein, chronologiquement, vous tombez sur un roman sud-africain, écrit en 79, Une saison blanche et sèche d'André Brink. Je rappelle, c'est l'enquête du père d'un adolescent arrêté au cours de manifestations de Soweto et qu'on retrouve mort, pendu. Le suicide sera évidemment la thèse officielle. Qu'est-ce qui se passe quand vous lisez ce roman, Chantal Aounou ?
Mais je suis atterrée, je comprends pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible encore parce qu'on est noir, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je trouve que c'est tellement, je sais pas comment dire, injuste, impensable, que je me dis un jour, j'irai voir moi-même de plus près.
C'est ce que vous faites.
Et c'est ce que j'ai fait, oui.
Et vous faites une thèse aussi.
Oui.
Sur quoi ?
Sur l'histoire de l'éducation, entre 1948 et 1994.
C'est-à-dire quoi ? Les conséquences de l'apartheid sur l'éducation ?
Oui, exactement. Ce que signifie d'abord avoir une éducation séparée, parce qu'on est noir. Les frustrations que ça peut engendrer, les maltraitances psychologiques que ça provoque, l'assignation à résidence et l'assignation à ne pas avoir d'ambition, d'espoir, l'assignation à ne pas exister.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous y êtes allé, vous y avez vécu, étudié, peut-être milité, je ne sais pas, mais en 89, 91, 92, c'est-à-dire que vous avez vu la fin de ce régime de l'apartheid et vous en êtes revenu, dites-vous, essoufflé.
Fatigué. Encore là, j'étais dans un monde un peu schizophrénique, hein, parce que dans la journée, j'allais à l'université toute seule, je faisais ma vie. Et le soir, je rentrais confortablement installée, il le fallait d'ailleurs. Mais en même temps, je me suis profondément moi-même éprouvée. Je me suis étudiée, analysée moi-même. Je suis devenue mon propre objet de recherche. J'avoue que oui.
C'est-à-dire
que je montais dans les bus pour noirs, je prenais les allées pour noirs, j'allais dans les endroits exclusivement réservés aux noirs. Et puis quand il m'arrivait, je suis fatiguée là, il faut que je trouve des endroits un peu, des zones un peu grises, on accepte toutes les composantes de la société, c'était un peu mieux pour moi. Et donc ça fait que être confrontée à ça tous les jours, de voir à quel point les Sud-Africains ont enduré des humiliations, des souffrances, des choses incroyablement difficile. Oui, quand on vient, on est un peu essoufflé, oui. Et on ne peut pas en parler.
En France, quand vous revenez ici,
ah
bah
non, qui peut comprendre ? Qui a envie d'entendre ? Et d'ailleurs, je l'ai tue. D'abord, j'avais un travail à terminer. Et après, c'est vrai que je me suis un peu effondrée.
Alors, George Jackson, qui est ce jeune homme membre des Black Panthers, qui va finir dans une prison de Soledad, injustement condamné pour un crime qu'il n'a pas fait, et qui va mourir à 30 ans, donc en prison. Mmh. Avant cette mort, il va réussir à lire, à étudier l'histoire noire, le marxisme, l'économie politique, et il aura le temps d'écrire des lettres qui vont donc paraître sous le titre « Les frères de Soledad ». Et j'aimerais qu'on partage en sol majeur, Chantal Aounou, une archivina où Jean Genet, notre Jean Genet, votre Jean Genet, lit un texte.
C'est vraiment Jean Genet.
Sur George Jackson, c'est vraiment Jean Genet.
Cet assassinat de Jackson par la police américaine, quel que soit le niveau d'autorité qu'il a décidé, c'est un coup monté. Il a pu partir des salons de Reagan ou d'un bureau de simple gardien. La cible reste la même. Un nègre qui pense, qui écrit ce qu'il pense, dont le livre est l'annonce et la préparation d'une révolution noire. Il est faux, comme on l'a fait pour lui, pour Angela, pour David Ilia, de parler de complot. Ce n'était pas un complot, mais pour Jackson, la préparation des consciences noires et blanches et d'un début de mise au point, le premier, d'une insurrection populaire. Les Blancs peuvent rire de la naïveté de Jackson. Il était en effet naïf, c'est-à-dire nouveau, c'est-à-dire dangereux. Maladroit, les Blancs l'ont tué. Ils ne l'ont pas grandi. Par sa mort, ils lui ont enfin donné ses proportions exactes, pourtant incalculables,
vaste. Pour en sol majeur sur RFI, ce texte de Jean Genet à propos de George Jackson, c'est un texte évidemment extrêmement précieux, surtout pour vous, dont l'histoire de l'apartheid que vous découvrez à l'âge de 16 ans vous hante toujours, dites-vous, à 59 ans. Est-ce qu'en revenant de l'Afrique du Sud, de cette Afrique du Sud des années 90 qui en finit avec le régime de l'apartheid, avec votre thèse sous le bras, est-ce que vous, ça provoque en vous une sorte de révolution noire, pour reprendre les termes de Jean Genet ?
Non, je ne crois pas. Je pense que j'ai toujours été une petite fille, une adolescente en colère.
Ben oui, justement, en colère.
Une jeune femme en colère, une femme en colère.
Ça donne quoi, à l'arrivée, toutes ces colères ?
Une force vive, une force créative, justement, pour apaiser les tensions, pour apaiser la colère, pour demander aux jeunes générations de créer des choses belles, puissantes, de dépasser tout ça.
M comme micro-sillon.
Octobre 1801, mai 1802. Retour sur l'insurrection initiée par Ignace et Delgrès contre le pouvoir bonapartiste et sur un épisode de l'histoire longtemps éludé, fondateur de la mémoire du pays. Hommage au combat pour la liberté de ces hommes et de ces femmes anonymes ou connues de tous. Réflexion contemporaine du XXIe siècle sur une page de l'histoire qui continue aujourd'hui de s'écrire au fil des recherches et dont la réception doit se poursuivre dans l'imaginaire collectif.
Lilian Thuram sur RFI, Lilian Thuram, narrateur de Vinyle Connecté, lisant la face B de l'Histoire en Marche. C'est un concept que l'on doit à Chuck One, qui signe une musique, fait partie d'une œuvre monumentale au Memorial Act en Guadeloupe. Alors, quel sens cette rencontre est là pour vous, Chuck One, puisque vous l'avez rencontré récemment, Chantal Aounou?
Mais écoutez, moi j'ai toujours rencontré des êtres que je pense exceptionnels, très engagés. Et Chuck One est habité par son histoire, par notre histoire commune.
L'histoire commune, c'est quoi? C'est l'esclavage, par exemple? C'est quoi, quand vous dites l'histoire commune?
Non, c'est l'histoire de notre condition, d'arriver au monde avec autant de choses à porter qui finalement ne nous concernent pas au départ. On ne choisit pas sa couleur, mais à partir du moment où on est et qu'on a cette couleur, en découlent mais des crimes odieux.
D'où cette œuvre signée Chuck One, le vinyle concept révolutionnaire avec portable et vinyle connecté à l'UNESCO.
Oui.
C'est OVNI ça, qu'est-ce que c'est?
C'est OVNI, mais moi c'est un OVNI qu'il a offert à des élèves.
C'est quoi? C'est l'histoire de l'esclavage racontée,
oui, l'histoire de,
mis en musique.
Mis en musique. C'est l'histoire de Delgrès qui se sacrifie pour la liberté, vivre libre ou mourir. Et parfois, pour obtenir la liberté, il faut faire le sacrifice de sa vie. Et moi, ça, je suis pas capable.
Et ça sauve certains de vos élèves de savoir l'histoire de Delgrès, par exemple.
L'histoire de Delgrès est un moment majeur, mais mes élèves viennent à la fois du continent africain ils sont aussi afrodescendants. Et pour tous, ils se posent des questions. Ou on les met en situation de se poser des questions. Moi, je veux vivre dans un pays apaisé. Et pour vivre dans un pays apaisé, il faut être en mesure de raconter aux enfants, aux adolescents, leur histoire, de leur offrir à lire leur littérature, j'entends, qui est aussi la littérature française, hein, finalement, puisqu'on est dans une culture partagée, j'espère que je ne me trompe pas, pour qu'ils soient bien aujourd'hui.
Alors, vous nous en avez ramené de ces outils, Chantal Aounou, ce que vous appelez, parce que la question est là, c'est une question à la fois à l'historienne que vous êtes, à la femme engagée et au professeur. Alors faites-nous voir ces livres citoyens. Je ne sais pas si le terme est impropre ou pas.
Il n'y a pas que des livres citoyens. J'adore celui-là. Barbara Jean Elie, Sina et le secret de la Caraïbe. Ce qui me plaît beaucoup, c'est un récit en 4 versions. Française, créole, anglaise, espagnole. Ce qui veut dire, en effet, qu'il est accessible dans toutes les langues importantes, je vais dire. Non, ça ne veut rien dire importante. Toutes les langues sont importantes.
On est d'accord. Hein ? Il n'y a pas de langue très belle non plus.
Il
n'y
a pas de langue très belle non plus. Enfin, moi, je dis très belle parce que j'adore le créole. Mm-hmm. Et j'ai une angoisse aussi, hein, je voulais vous dire, de l'eau. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette angoisse. En même temps, j'adore l'océan. Je suis fascinée par l'océan, la mer. Et j'ai compris que c'était parce que des Africains avaient traversé l'Atlantique et que l'océan Atlantique est aussi un vaste cimetière. La Méditerranée est devenue un vaste cimetière. Que beaucoup d'enfants africains, africains-américains, ne savaient pas nager et que c'était lié à la ségrégation, au fait qu'ils n'avaient pas le droit de fréquenter les piscines. Et donc... Moi, j'ai aussi quelque chose de particulier avec l'eau, avec la mer.
Il est peut-être 18h dans votre ensole majeure, Chantal Aounou. On est sur une plage de Ouida. Ouida, marquée par l'esclavage. Ouida, terre du vaudou aussi, dont j'ai cru comprendre que ce n'était pas exactement l'une de vos cultures.
Non, mais c'est une des cultures, en effet, du Bénin, bien sûr. Mais je vais vous expliquer comment, dans la culture vaudou, il y a des choses qui ont été totalement acceptées, intégrées, et puis avec le temps, des choses que mon grand-père, par exemple, nous a conseillé de ne pas appliquer.
Oui, il vous a, dans son testament, il vous a fait des recommandations sur ces questions. Mais concrètement, c'est-à-dire, qu'est-ce que...
Bah écoutez, à partir du moment où on choisit, et ça c'est lié à la colonisation française, hein, faut pas chercher, hein. Si vous êtes français, quelque part, je dis bien quelque part, hein, vous adoptez
vous êtes bien
la
française,
religion
là.
Chrétienne, catholique ou protestante. Et donc, les religions, ou la religion, c'est aussi une religion vaudou, ne doit plus faire partie de votre être. Il faut choisir l'une ou l'autre.
Beaucoup de
Mais ça, c'est pas possible.
Beaucoup de Béninois ne choisissent pas.
Mais c'est pas possible. Donc, je suppose qu'il faut trouver un compromis. Je dis bien, je suppose. Et c'est ce qu'il a fait.
Et vous êtes dans cette filiation vous-même?
Moi, je vis en France, qui n'est pas pareil. Je vais répondre comme ça.
Est-ce que les questions, vous pourriez les poser parfois en fond?
J'ai oublié ma langue. C'est une des conséquences de la colonisation aussi.
On ne peut pas mettre quand même toujours tout sur le dos de la colonisation, Chantal Aounou.
Oh, je ne pense pas que j'ai pu dire que j'accusais la colonisation de m'avoir brimée, de m'avoir mal... J'ai jamais dit.
Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des cours de fond, par exemple?
Mais j'ai pensé à prendre des cours d'anglais. Par nécessité, parce que je voulais retrouver aussi mes origines ghanéennes. Bon, le fond, Je peux le comprendre, en effet, quand on me parle lentement. Et ça viendra. Ça fait beaucoup pour moi, hein, depuis que je suis née, de remettre les choses à l'endroit.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Chantal Aounou, on pourrait peut-être se quitter avec un hymne à l'amour, celui d'Édith Piaf. Que vous rappelle cette chanson ?
Je suis le fruit de l'amour de mes deux parents. Et c'est ça qui me tient en vie.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Ne m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Ne m'abandonne si tu m'aimes. Car moi je m'aimerai aussi. Nous aurons bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se...
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain et on vous espère avec donc devinez qui, Chakwan. On l'embrasse pour vous.
Merci.